Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, nous sommes lundi 25 novembre 2024. Merci de nous recevoir chez vous au sommaire de cette édition. La carte d'identification NINA du Mali n'est plus une pièce valable pour accéder au territoire sénégalais. Seule la carte biométrique et les passeports sont acceptés. Marche de soutien à la transition hier à Badjangara. Les manifestants demandent aussi plus d'action du gouvernement pour le retour de la sécurité dans la région. Conclusion de la COP29, 300 milliards de dollars seront mobilisés pour lutter contre les effets du dérèglement climatique, une somme jugée insuffisante par les pays africains. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité de ce lundi soir qui seront détaillées dans un instant par Lala Diarra Touré avec la complicité technique de Philippe Dambélé. Bonsoir et bienvenue à tous. La carte d'identification NINA rejetée à la frontière Mali-Sénégal. Pour entrer au Sénégal, les Maliens devront désormais se munir soit de la carte biométrique ou du passeport. Cette nouvelle mesure, entrée en vigueur depuis une semaine, surprend de nombreux voyageurs maliens. Ainsi, la carte NINA, autrefois acceptée comme pièce d'identité nationale au même titre que la carte biométrique, n'est plus reconnue par les autorités sénégalaises. Mais selon le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, l'application de cette mesure est annoncée depuis 2023. Mariam Koulibaly nous fait le point.
L'application de cette mesure surprend de nombreux Maliens systématiquement refoulés à la frontière sénégalaise parce qu'ils n'ont pas de carte biométrique ni passeport. C'est le cas de Lassina Dao, chauffeur international à Benso Transport, pris au dépourvu lorsque 11 de ses passagers ont été renvoyés à la frontière qui sépare le Mali et le Sénégal. Les autorités sénégalaises ne reconnaissent plus leur carte NINA qui leur servait de document de voyage.
Actuellement, au niveau des frontières sénégalaises, les passagers qui n'ont pas de carte biométrique, ils sont obligés de les faire retourner. Ils ont fait une note de service de dire que tout équipage qui ne se met pas en ces règles-là, ils seront obligés de retourner. Et il y a beaucoup de passagers qui n'ont pas de carte biométrique. Ça joue même sur la compagnie.
Pour Mohamed Lamine Ban, chargé des affaires sociales au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, cette décision n'est pas contre le Mali et elle s'applique à tous. Il invite les usagers de ce tronçon à se mettre en règle.
Les autorités sénégalaises sont en train de mettre en œuvre cette disposition légale du Sénégal avec vigueur et ça concerne tout le monde. Mais le mieux, c'est de disposer d'une carte d'identité biométrique CDAO où il n'y a pas de doute en tout cas.
L'impact de cette décision est économique mais aussi psychologique pour les compagnies de voyage et les voyageurs. Ils demandent aux autorités de trouver un consensus avec le Sénégal pour reconnaître la carte NINA pour le moment, pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens entre les deux pays.
Fidèles auditeurs, vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Comme annoncé dans les titres, des habitants de Badjangara ont battu le pavé ce dimanche pour soutenir les autorités de la transition. Les manifestants ont aussi demandé aux autorités du pays plus d'action pour le retour de la sécurité dans l'ensemble de la région. Cette manifestation s'est déroulée alors que plusieurs localités de la région se sont vidées de leurs habitants ces dernières semaines à cause des attaques des hommes armés non identifiés. Écoutons ici le reportage de notre correspondant Adama Djigiba depuis Badjangara.
Le monument Nangabanu Tembeli était le point de convergence des manifestants. Ces derniers, par centaines, sont venus de toutes les contrées du cercle. Certains manifestants demandent à l'État de collaborer avec la milice de chasseurs d'Anambasagou pour sécuriser la région.
Nous supportons la notion et les forces de l'ordre qu'ils travaillent la main dans la main avec d'Anambasagou.
Badjangara étant le cœur du centre du pays, besoin de cette sécurité. Nous souffrons depuis bon moment.
Badjangara vit dans une insécurité totale depuis des années. Soldats, qu'ils sortent la tête haute et qu'ils remplissent leur mission pleinement.
Le gouverneur de la région s'est engagé à transmettre les préoccupations des marcheurs à qui de droit. Le colonel-major Olivier Diassana a aussi assuré que tout sera mis en œuvre pour que les populations de la région retrouvent leur quiétude.
Malgré l'insécurité, Badjangara est une région d'espoir et une région d'avenir. Je vous rassure que j'ai pris bonne note de vos déclarations et je vous rassure que je les transmettrai à qui de droit. Je mets le vœu et que dans les jours à venir, vous vaquerez à vos occupations sans plus rien craindre.
La région de Badjangara est en proie à l'insécurité depuis des années, faisant de nombreux morts et des déplacements massifs de la population. C'était depuis Badjangara, Adama Djigiba pour Studio Tamani.
De Badiangara cap à présent sur Yuwaru, où les récoltes ont eu lieu avant la date prévue par les cultivateurs. Selon les agriculteurs, cette pré-récolte est due à la montée des eaux et la présence massive des oiseaux migratoires dans les champs de riz et de mil. Cependant, les responsables de l'agriculture craignent ses conséquences sur le rendement de la campagne agricole de cette année dans le cercle. Reportage signé Bamoui Dima Amadoun Kebe, notre correspondant depuis Yuwaru.
Les cultivateurs de Yuwaru déplorent l'inondation de leurs champs de céréales. À cela s'ajoute aussi la présence des oiseaux granivores. Selon eux, la perte est énorme cette année.
Il y a des champs de riz qui sont engloutis par l'eau. Il faut une pirogue pour pouvoir récolter le riz. Et c'est ce qui nous inquiète ici. On n'a rien eu cette année. Les oiseaux nous ont causé beaucoup de dégâts. On n'a rien eu dans nos champs de riz.
Fousseyni Malé est le chef sous-secteur central de l'agriculture. Il explique que la hiérarchie a été informée de la situation. Mais ils attendent des mesures.
Ça va jouer sur le rendement de la production même en question, parce qu'il y aura des grains vides, il y aura des grains qui ne sont pas à maturité. En tout cas, nous sommes en train de remonter les informations, les données par rapport à cette situation. Mais pour le moment, l'État n'a rien décidé d'abord.
Toutefois, les responsables locaux de l'agriculture indiquent que les cultivateurs doivent chercher la semence de riz de la grande taille l'année prochaine afin d'éviter la même situation. De Yuwaru, Bamoudi Mohamedou Kebe pour Studio Tamar.
Parlons environnement dans ce journal. La COP29 s'est clôturée ce week-end à Bakou, en Azerbaïdjan. Les pays développés se sont engagés à contribuer à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an à la lutte mondiale contre le changement climatique, un montant que les pays africains jugent insuffisant. Toutefois, les délégations se sont accordées sur des règles pour mieux organiser les marchés de carbone internationaux. Ahmed Sekou Diallo est membre de la délégation malienne de retour de la rencontre. Il est au micro de Maman Babakunta.
Dans les négociations, on parlait de 1 300 milliards de dollars par an pour répondre positivement aux effets néfastes des changements climatiques. Au finish, 300 milliards de dollars ont été accordés. Ce n'est pas à hauteur de souhait. Et puis, il faut dire aussi que ce n'est pas des dons seulement. Il y a des prêts qui sont inclus et les prêts, on le sait, faire reculer les pays en voie de développement. Donc, nous pouvons dire que ce n'est pas une satisfaction totale, mais nous avons eu des avancées. Il y a eu beaucoup d'autres accords, notamment en ce qui concerne les puits carbone, l'opérationnalisation des pertes et dommages.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À 18h08, nous ouvrons la page des chroniques de ce journal. Sur différentes plateformes digitales, il n'est pas rare de tomber sur des contenus en lien avec la crise que traverse le pays. Souvent, la bonne information se trouve noyée par des propagandes, des contenus qui sont de nature à empirer la situation selon des experts. L'impact de la propagande, c'est le sujet de notre rubrique Vérifions de cette semaine, une réalisation de Draman Meiga.
La propagande, la désinformation et les fausses nouvelles peuvent avoir des conséquences graves pour la société. Ces phénomènes sont souvent liés et la propagande polarise l'opinion publique. En plus de diviser les populations, elle encourage des idées extrêmes, ce qui attise sans doute la haine. Suite aux récents événements au nord du pays, précisément à Tinzawaten, plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Les internautes, en partageant ces contenus, amplifient consciemment ou inconsciemment la psychose. D'un autre côté, des chroniqueurs ouvrent blogueurs se permettent de commenter certaines informations. Des fois, ils donnent même des informations non factuelles. Ils sont devenus des sources de désinformation, indique Alexis Calambri, directeur de publication des Mali Tribune. Le journaliste souligne que la plupart de ces personnes ne savent pas quoi dire ou et quand donner certains aspects de l'information. Alors, pour ne pas attiser le feu, restons factuels et évitons le partage des images sensibles, mais aussi des informations peu fiables.
C'est bien noté, Draman Meiga. La chronique Zoom sur aujourd'hui parle des parents, précisément les mamans qui ne reconnaissent jamais le tort de leurs enfants. Moussa Ag Mahaha.
Ah, il y a des parents qui sont des fervents défenseurs de leur progéniture, quoi que ces derniers fassent. Ma voisine Sitan en est l'illustration parfaite. Sitan a 3 enfants parmi lesquels un petit garçon du nom de Papi, âgé de 6 ans. Papi est non seulement très turbulent, mais aussi belliqueux. Il s'en prend toujours aux autres enfants du quartier et le plus étonnant, c'est qu'il fait toujours recours à des objets qui peuvent faire très mal, voire blesser ces derniers. Les mamans du quartier défilent la longueur de journée chez Sitan pour se plaindre. Et la seule excuse que Sitan trouve pour innocenter son enfant chaque fois est la suivante. Papi n'est qu'un enfant. S'il savait, il n'allait pas le faire. Et en plus, pourquoi tout le monde s'acharne contre mon enfant? Pourquoi vous ne demandez jamais aux vôtres ce qu'ils ont fait en premier? Vraiment, cessez d'être des mauvaises mères. Un beau matin, Papi enfonce un bâton dans l'œil d'un enfant dans la rue. Malheureusement, l'enfant, suite à la blessure, perd la vie. Voilà maintenant Sitan dans de beaux draps. Les parents de ce dernier connaissent bien Sitan et son refrain. Ils sont directement partis porter plainte. Et c'est là que Sitan réalise la gravité de la situation et commence à demander pardon et promettre que Papi recevra une correction à la hauteur de son forfait. Chers parents, bien que les enfants soient notre plus grand trésor, veillons à les inculquer de bonnes valeurs et admettons le fait que les autres puissent être d'un grand apport dans leur éducation.
Absolument, Moussa Ag Mahaha, ne soyons pas des esclaves de nos enfants, dans le mauvais sens, bien sûr. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Nous vous rappelons qu'après ce journal, vous pourrez suivre le grand dialogue qui s'intéresse à la nomination du général Abdoulaye Maïga comme nouveau Premier ministre de transition. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et les magazines qui va suivre en appelant le service Kunafonio 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Prenez soin de vous et des autres. Bonsoir. Le parrainage, par définition, est un appui moral apporté à une personne ou à un projet en vue d'en tirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. Le choix d'un parrain ou d'une marraine se fait dans le domaine religieux, social, politique et associatif. Son rôle change d'un domaine à l'autre. Aujourd'hui, l'aspect pécunier semble changer le but de cette mission. Et pourtant, la responsabilité du parrain ou de la marraine n'est pas négligeable, soutiennent des sociologues. Quelles sont donc les conditions d'éligibilité? Comment les élus perçoivent les choix? Le magazine Gouvernance aborde la question et c'est avec Mariam Koulibaly.
Dans l'Église catholique, le parrain ou la marraine interfère dans la vie religieuse de leur filleul. Mais le choix de ces derniers n'est pas fortuit, d'après l'abbé Fernand Koulibaly, coordinateur national des médias catholiques du Mali.
C'est comme un père spirituel. Un parrain est choisi par les parents de l'enfant. Un parrain peut venir d'un ami, un parent proche. Il est chrétien, baptisé, confirmé normalement. Le parrain, il est là au baptême, à sa première communion, à sa confirmation, à son mariage ou à son ordination presbytérale.
Chez les Bambara, traditionnellement, la marraine était honorée d'accompagner ses enfants chez leurs conjoints. Elle accomplissait aussi des rituels pendant la cérémonie. Aujourd'hui, les choses auraient pris une autre tournure, au dire de la traditionnaliste Niele Sinayoko.
Après les fiançailles dans le vestibule, les papas demandent à la mère de désigner la marraine de l'enfant. Elle aura la charge de partager les selles entre les femmes du village. Les jours du mariage, elle ne fait pas de dépenses superflues. Elle se contente de payer la jarre et quelques bols. Elle fait aussi une invitation à l'honneur du mari et de ses amis.
Actuellement, presque toutes les activités associatives, politiques, sportives ou culturelles sont parrainées. À entendre Abdoulaye Ali, membre de la Jeune Chambre internationale de Tombouctou. C'est une forme de reconnaissance, mais pas que.
Quand on choisit un parrain ou une marraine, c'est sous une forme de reconnaissance vis tout ce qu'il a fait à l'endroit de l'association et de la communauté. Quand on choisit un parrain aussi, ça veut dire qu'il peut mobiliser des personnes pour nous accompagner financièrement sur le plan de la communication, sous une forme matérielle.
Madame Dieng est une femme influente dans son quartier. Elle parraine plusieurs activités culturelles, sportives et éducatives. Elle s'est dit touchée par cette marque de gratitude.
Donc j'ai été marraine à des événements comme le 8 mars. Ce n'est pas les conditions qu'on m'a posées pour donner les matériels ou bien pour financer. C'est l'honneur même que moi je fais. Et puis j'ai beaucoup apprécié.
Le choix d'un parrain devient très sélectif de nos jours. La moralité du client est mise de côté au profit de sa richesse. Le sociologue Seydou Magassa nous explique pourquoi.
Des étudiants qui cherchent par exemple à être parrainés par un homme d'affaires ou bien un homme politique, très souvent c'est pour qu'eux puissent en tout cas leur offrir des opportunités. Dans une manifestation ou bien organiser le football dans un quartier, on choisit l'homme d'affaires le plus riche du quartier pour qu'il parraine. Là, c'est logique. Mais si c'est dans le domaine intellectuel, par exemple, des gens qui se sont construits eux-mêmes. Donc là, on trouve que c'est très adroit de choisir des parrains qui ont un tel profil.
Au dire de nos interlocuteurs, le parrainage a pris de nos jours d'autres considérations telles que la stabilité financière des parrains. Ainsi, le leadership du parrain ou de la marraine est généralement sollicité dans les événements qui nécessitent de grandes dépenses ou des charges au détriment de la moralité.
Monsieur, votre parti ?
Ah, mais donne ça au parrain. Ah, il est bâti.